Mes bien chers amis, aujourd'hui, au Canada, comme aux États-Unis et en plusieurs autres pays du monde libre, la liberté d'association est inscrite dans les lois. Les employés peuvent donc se grouper en syndicat pour négocier collectivement avec leurs employeurs les conditions de salaire et autres auxquelles ils acceptent de travailler. La formation d'un syndicat se fait ordinairement sur l'initiative d'un ou de quelques employés ou de propagandistes venus du dehors. Les promoteurs exposent aux employés les avantages qu'ils auraient à s'unir pour obtenir de meilleures conditions de travail. Les employés peuvent ainsi être vus par des représentants de syndicats différents. Lorsqu'un nombre majoritaire des employés a donné son adhésion à un syndicat, ce syndicat-là s'adresse à la Commission des relations ouvrières pour se faire reconnaître légalement comme agent négociateur, ce qui lui permettra de passer avec l'employeur un contrat collectif applicable à tous les employés de l'établissement. Or, récemment, à Montréal, les choses ne se sont pas passées ainsi. La compagnie de l'exposition universelle s'est entendue, non pas avec ses propres employés, mais avec les dirigeants de deux centrales syndicales pour obliger ses employés de bureau à se syndiquer et à s'affilier à l'une ou l'autre de ces deux centrales sous peine de perdre leur emploi. C'était contre le gré des employés eux-mêmes, comme il ressort du télégramme adressé par eux au premier ministre du Canada, Lester Pearson, et au ministre fédéral du Travail, Michel Charles. Le télégramme disait « Une grande majorité des employés de l'Expo vous expriment par la présence leur vive protestation contre les avis reçus de l'Expo, nous pressant d'entrer dans une union sous peine de risquer la perte de notre emploi. C'est là une violation sérieuse du droit de travailler et du droit de quitter le travail, droit garanti par la loi canadienne. » Fin du télégramme. Selon les mots de Jean-Claude Ménard, président du Conseil du travail de Montréal, les employés de bureau de l'Expo avaient à choisir entre être pendus ou être étranglés. Ce n'est guère reluisant dans un pays qui se proclame libre. Finalement, le 9 mars, la compagnie de l'Expo en est venue à un accord avec les deux centrales syndicales. Au terme de cet accord, le personnel engagé avant cette date demeurera libre d'adhérer ou non à l'une des deux unions. Mais tous les nouveaux embauchés à partir du 9 mars devront s'inscrire à un syndicat de l'une ou l'autre obédience. Le nombre de ces nouveaux, liés en entrant, devrait avant longtemps, dit-on, dépasser le nombre des anciens demeurés libres. C'est là passer de la liberté d'association à la contrainte d'association. Ce n'est plus de la liberté, mais de la dictature. Une dictature pratiquée surtout par des chefs de syndicats, mais à laquelle collaborent trop souvent des employeurs et des hommes publics. Dans un éditorial commentant le cas de l'Expo, le Globe and Mail, journal de Toronto, fustige cette dictature et signale une situation semblable qui s'est produite dans la capitale de l'Ontario. Ce journal écrit « À Toronto, le conseil municipal a essayé de forcer les contracteurs auxquels il confie des travaux municipaux, égouts, rues, trottoirs, à n'employer que des travailleurs affiliés au syndicat Toronto Construction and Building Trades. L'an dernier, le conseil adopta un règlement à cette fin. Mais ce règlement a été déclaré illégal et discriminatoire par la Cour d'appel de l'Ontario, et la Cour suprême du Canada a maintenu ce jugement en refusant l'appel de la ville. Il y a quelques années déjà, une association ouvrière s'est fondée en Ontario, justement pour résister à cette tyrannie et pour promouvoir les principes humains et chrétiens en matière de travail. Elle s'appelle Christian Labour Association of Canada, Association chrétienne des travailleurs du Canada. Les centrales syndicales l'ont vu de mauvais œil. Elles ont voulu lui faire refuser par la Commission des relations ouvrières le droit de négocier des contrats collectifs avec les employeurs. elles alléguaient que son vocable de chrétienne et les références de sa constitution à Dieu et à la Bible en faisaient un organisme discriminatoire. Cette accusation fut portée en cour, mais la cour rejeta l'accusation comme non fondée et l'Association chrétienne des travailleurs du Canada a pu négocier plusieurs contrats de travail depuis sa fondation. Cette association est loin de compter un nombre de membres comparable à celui des grosses centrales neutres, mais elle exerce tout de même une influence partout où elle s'est introduite, même si ses membres y sont en nombre minoritaire. Elle s'efforce particulièrement de faire obstacle à la dictature syndicale qui oblige l'ouvrier, sous peine de perdre son emploi, à entrer dans un syndicat majoritaire ou au moins à en payer les cotisations. Citons par exemple le fait suivant. Une compagnie, la Greening Metal Products and Screening Company, s'est établie à Orangeville, Ontario, en 1955. Son premier employé fut Hugendorn. Il compte donc 10 années de service. 7 ans plus tard seulement, en 1962, les United Steel Workers of America enrôlaient dans leur syndicat la majorité des employés de la compagnie et obtenaient le droit de négocier un contrat collectif avec l'employeur. M. Hugendorn et 2 autres employés, M. Medemblick et Arkema, qui comptaient tous les 2 9 années de service, avertirent la compagnie qu'ils refuseraient de joindre les United Steel Workers, Union socialiste qui soutient politiquement le NPD, Parti socialiste canadien, avec une part des contributions de ses membres. Le 16 juin 1962, les steelworkers de la compagnie signaient leur premier contrat collectif. Ce contrat laissait les employés déjà engagés libres d'adhérer ou non au syndicat, mais obligeait tous les nouveaux employés à en devenir membres avant de pouvoir obtenir un emploi. 3 mois avant l'expiration de ce premier contrat, le 3 octobre 1964, Hugendorn, Medemblick et Arkema avertirent de nouveau la compagnie de leur attitude. « Notre vision chrétienne de la vie, écrivirent-ils, ne nous permet d'appuyer d'aucune façon un syndicat fermement engagé envers le socialisme et le Parti socialiste NPD. Nous espérons donc que le nouveau contrat sauvegardera la liberté individuelle du travailleur en matière de syndicalisme. » Mais il n'en fut rien. Le nouveau contrat liait tous les employés à la clause syndicale. Et le 17 mars dernier, nos 3 hommes furent avertis qu'ils perdraient probablement leur emploi s'ils ne signaient pas. Ils refusèrent, expliquant que de leur part, ce n'était pas une question d'argent, mais de principe. Comme preuve de cette affirmation, ils offraient de payer le double de la cotisation mensuelle syndicale de Saint-Piastre, mais pas aux steelworkers. Ils verseraient les 10 dollars à une œuvre de charité. Rien ici, et le 22 mars, les 3 furent mis à pied. Les 3 sont membres de la Christian Labor Association of Canada. Mais il y a aussi en Ontario une organisation qui s'appelle Comité pour la justice et la liberté. Elle a pour but de fournir de l'aide légale aux victimes d'injustice. Le cas des 3 hommes congédiés d'Oranville fut communiqué à ce comité qui s'en est occupé tout de suite. Maître Kelsey, aviseur légal du comité, a notifié la compagnie et les United Steel Workers que si les 3 n'étaient pas réinstallés immédiatement, leur cause serait portée en cour. Il n'y a pas eu besoin d'aller en cour. Une circulaire du Comité pour la justice et la liberté, datée du 2 avril, nous apprend en effet que les 3 hommes allaient être repris par la compagnie dès le lundi 5 avril. Les 3 ont déclaré qu'ils continueraient de verser la contribution mensuelle de 5 dollars, non pas au syndicat socialiste, mais à l'Association chrétienne des travailleurs du Canada, avec une autre 5 dollars mensuels à la Croix-Rouge. Dans la circulaire annonçant cette victoire de la liberté contre la dictature, le comité écrit « Notre comité croit que le droit de l'employé au syndicat de son propre choix doit être respecté par tous et qu'aucun syndicat ne devrait avoir le droit de forcer le travailleur à joindre ses rangs pour avoir droit à un emploi. les syndicats qui recourent à cette coercition, à cette contrainte, sont coupables de discrimination. Le comité espère que les syndicats du Congrès canadien du travail cesseront cette discrimination. Le droit constitutionnel de chaque Canadien à la liberté d'association et de religion doit être pleinement sauvegardé et toute forme de syndicalisme obligatoire doit être abolie. Fin de la citation du comité. Voilà des principes qu'il fait bon entendre proclamer. Mais pourquoi faut-il qu'il le soit par des voix d'Ontario, alors que chez nous, dans notre catholique province de Québec, les chefs ouvriers et même des aumôniers comme les Thibault, les Pichette et d'autres soutiennent le syndicalisme obligatoire? La Christian Labor Association of Canada se dit fière de ces deux C, le C pour Canada et le C pour chrétien. Pendant ce temps-là, en France et en Nouvelle-France, on fait le contraire. On se défait du C chrétien, du C catholique. Dans un congrès extraordinaire des 6 et 7 novembre dernier, tenu à Versailles, la Confédération française des travailleurs chrétiens décida de s'appeler désormais Confédération démocratique du travail. Elle se fondera sur le socialisme démocratique et non plus sur la morale sociale chrétienne. C'est le fruit d'un laïcisme croissant depuis 1936 au sein de ce syndicat français. Le soir de ce congrès, cependant, une minorité de congressistes se réunit, se dissocia de la majorité et décida de continuer sous le vocable chrétien. Dans notre province de Québec, on va plus vite une fois qu'on a décidé d'embrasser la gauche. Il n'a pas fallu 30 ans de mise en condition, une dizaine d'années de gauchisme a suffi, et dès 1961, l'ancienne CTCC, Confédération des travailleurs catholiques du Canada, devenait la CSN, Confédération des syndicats nationaux. Et il n'y a pas une minorité pour se dissocier de cette décision. Quant aux aumôniers, mon Dieu, ils semblent n'être là que pour couvrir de leur prestige ecclésiastique l'abandon de la confessionnalité, tout comme les violations de la liberté d'association par les meneurs socialistes des syndicats ouvriers. Il reste que la liberté d'association est un droit naturel. Si l'interdiction d'association viole ce droit, la contrainte d'association le viole également. L'exercice de ce droit naturel peut être entravé par des lois, par des règlements, par des contrats. Mais la violation d'un droit naturel ne le supprime pas. Le droit lui-même demeure et ne peut être détruit ni par des tyrannos de syndicats majoritaires, ni par des décisions de juges à nous autres, ni par la casuistique de clercs titrés. Souhaitons qu'il y ait au Québec et ailleurs, comme en Ontario, des amants de la liberté qui refusent toute tyrannie, ouvrière comme patronale ou financière, qui ne cessent de la flétrir même quand elle les enchaîne physiquement ou légalement. C'est à la formation de tels patriotes qu'on s'applique à l'école de verre de main.
Nous venons d'entendre M. Louis Hébin, le directeur et fondateur du journal Verre de main.